Bienvenue sur Radio Libre. Le live. Le live. Le live. Le live. Le live. Bienvenue sur Radio Libre. Le live. C'est le live. Le live de Radio Libre, c'est maintenant.
Bonsoir chers auditeurs, bonsoir Amaël, bonsoir Pascal et bonsoir notre invité Mirko Rocha et bonsoir nos auditeurs aussi pour une soirée de folie là qui commence bien. On a fait les petits fous dans les coulisses. On espère que vous allez tous bien, que vous avez survécu au 1er avril et que le 2 se passe tout aussi bien que le 1er. Aujourd'hui, on a l'invité du jour. En fait, on l'avait déjà reçu quand il avait lancé son spectacle donc actuel qui s'appelle En toute discrétion. Et on va le recevoir aujourd'hui alors que la tournée, en gros, se terminera le 2 mai à Saint-Pré. Et d'ailleurs, il a eu la générosité de donner aux auditeurs de Radio Libre des billets. Il y a des places à gagner ce soir lors du live. Donc, vous pouvez envoyer simplement un email à info@radiolibre.ch. info@radiolibre.ch. Et ben, les premiers qui arriveront auront des places. Vous nous dites si vous voulez une ou deux places. Hein, on va pas vous limiter si vous êtes deux. Je pense que ça va aller. Donc, merci à Mirko pour sa générosité. Et puis, bonsoir Mirko.
Bonsoir. Bonsoir tout le monde.
Bonsoir Mirko.
Bonsoir Amaël au bout du monde. Bonsoir Charlie au bout du monde. Bonsoir Pascal. Je sais pas s'il est au bout du monde.
Non, pas trop.
Ah, il est travaillé le lac, il est.
Ah oui, c'est ça. Bah, quand même.
C'est un peu ça quand même aussi, hein. Au bout du lac en tout cas, au bout du lac.
Morges, c'est le centre du monde, quoi. On n'a pas trop fait les petits fous avant l'émission pour dire vrai, parce que comme on est effectivement Charlie en Grèce, vous en Suisse, Pascal et Mirko, et moi au Paraguay, des fois c'est pas facile de s'accorder, ne serait-ce que sur les horaires. Mais en tout cas, on va voir Mirko. Avec nous ce soir. Et puis, on va revenir un petit peu sur la destinée de ce spectacle qui s'appelle En toute discrétion. J'allais dire distraction aussi, qui va donc connaître sa dernière représentation le vendredi 2 mai. Alors, c'est un spectacle qui a commencé, si je dis pas de bêtises, vraiment en 2020 avec le début du Covid à peu près.
Ah oui, le mois fatidique, ça devait commencer le 20 mars.
Merveilleux.
Le 20 mars 2020 puis on a fermé quoi, le 15, 16 avant, quelque chose comme ça.
Le 13 ou le 16.
Ouais, par là. Donc une semaine avant, nous on a un peu pris la décision de dire on va certainement pas la faire parce que ça sentait déjà pas très bon. Et puis voilà, et gros coup près à ce moment-là quoi.
Bon, t'as fait d'autres choses entre deux. Il y a eu la revue, et puis t'as repris le spectacle quand c'était possible de le reprendre sans passe sanitaire, sans souci.
Alors on a pu faire la première finalement en septembre 2020, mais dans une salle à 35 personnes, quelque chose comme ça, qui devait normalement en avoir 350. Donc on a dû bien vider la salle pour avoir quelques personnes, et puis. Et puis après ça, oui, on a pu faire la revue. Est-ce qu'on l'a refait ? Oui, on l'a fait complètement, je crois, à ce moment-là. Il y avait encore pas trop de, il y avait pas de passe encore. Il y avait un peu les masques. Et puis au début pas trop de monde. Après un peu plus de monde, mais non, c'était la première revue vaudoise. On a pu la faire. C'est en 2021 qu'on a fait la revue vaudoise 15 jours et après ça s'est arrêté parce qu'ils avaient refermé les théâtres, je crois, un truc comme ça, ouais.
Oh, c'était aussi particulier pour toi, hein, parce qu'on demandait le pass sanitaire, toi t'étais pas vacciné, tu devais faire, je crois, tester pour les représentations, je sais pas comment t'as géré ça au niveau du plateau, des collègues et des copains, mais ça devait pas être simple.
Moi, mes spectacles tout seul, j'avais décidé d'arrêter et puis de pas demander ça aux gens, je l'avais assez dit. Que je voulais pas de passe ou pas de, puis même les contraintes, enfin aller voir de l'humour avec des masques, des gens distancés, un siège sur deux, des salles avec des jauges une fois sur cinq et à quatre pattes à genoux, etc. Là, à ce moment-là pour moi c'était non. Et puis la revue, j'avais été engagé très en amont, ce qui fait qu'on peut pas tellement à ce moment-là dire je me ressors du contrat et je bosse pas avec vous. Enfin moi ils connaissaient Ils connaissaient mes conditions. Et puis, j'ai un peu joué le calendrier. Je me suis dit, on va voir. Parce que peut-être qu'il y a des choses qui vont tomber. Peut-être qu'il y a des choses qui vont pas se maintenir. Et effectivement, alors, il s'est passé deux choses. C'est que la première, j'ai dû faire beaucoup de tests dans le nez quasiment trois fois par semaine pour pouvoir rentrer dans un bâtiment. Ce qui était déjà relativement cher en plus, hein, 50 francs le test, je vous laisse s'imaginer, hein, trois fois par semaine, hein, j'étais à 150 francs par semaine. Et après, quand les tests n'étaient plus possibles, quand c'est passé en 2G, c'est-à-dire à peu près deux, trois mois après, là, le seul truc qui m'a sauvé, c'est que j'avais eu le Covid et j'avais des anticorps. Donc, j'ai pu avoir mon pass anticorps. Donc, je suis allé contrôler avec une prise de sang. Il y a un médecin qui m'a dit, oui, vous avez des anticorps, vous en avez plein, etc. Après, je me disais, mais le pass anticorps, entre guillemets, dans un mois, j'espère que j'aurai encore assez de parce qu'il fallait un quota d'anticorps, il fallait une jauge. Et là, à ce moment-là, bah, c'était un peu diminué, mais j'en avais encore assez pour bénéficier de mon pass 2G. Mais c'était une grosse blague, hein, parce que c'est finalement, un pass 2G qui m'a duré une semaine et demie. Si j'avais pas ça, si je l'avais pas eu, j'aurais pas pu finir la revue une semaine, en fait.
Hallucinant. Ouais. Hallucinant. Que de souvenirs.
Oh là là. Non, mais beaucoup de stress, en fait, hein, parce que ouais. Très, très désagréable pour eux, évidemment, hein, pour la production, pour des gens qui respectent quand même tes choix, puis sont coincés, en fait, aussi avec ce qui se passe. Et puis pour moi, quoi, une épée de Damoclès en-dessus de la tête, avec clairement plusieurs nuits où est-ce que demain je vais me faire injecter parce que j'ai pas le choix, quoi.
Est-ce que tout le monde a respecté ton choix ? Est-ce qu'il y a quand même des gens qui t'en voulaient, qui étaient là, t'emmerdes le monde, Mirko
Non, parce alors que t'es pas vacciné. Je crois que tout le monde a respecté, mais clairement, j'emmerdais quand même le monde. Enfin, c'est logique. Non, mais c'est logique. Ils sont gentils parce qu'en fait, on n'est pas dans un. Il y a quelque part la responsabilité, c'était la mienne. C'est ce qu'on m'avait dit, en fait. Après, c'est moi qui accepte s'il y a un problème. Donc, finalement, non, ils ont été gentils. Il n'y a personne qui m'a fait la gueule ou qui m'a puni ou quoi que ce soit. Mais simplement, moi, je ressentais bien que c'était moi le casse-couille de service, quoi.
Alors, Mirko, pour en revenir à ton spectacle en toute discrétion, comment tu résumerais un peu son parcours et qu'est-ce que ça te fait d'arriver là à la dernière ?
Bah, c'était vraiment atypique, hein. C'est-à-dire que effectivement faire un spectacle quand tout s'arrête, quand on n'a jamais vécu ce qui s'est passé, quand il y a eu finalement une période longue, hein. Moi je me disais dans ma tête si ça s'arrête pendant 3 mois, bah, on reprendra après comme des vacances d'été, quoi. Mais plus ça dure, plus on voit que la problématique, elle change, en fait. C'est-à-dire qu'on disparaît longtemps, on se dit on va peut-être être oublié. Le spectacle, on peut pas le roder. On le joue honnêtement, là, en 3 ans, j'ai dû le jouer 3-4 fois avec des sauts de puce de 6-8 mois, quoi, quasiment. Donc, on n'arrive pas à trouver un rythme, à voir ce que ce spectacle vaut. Puis d'aller le présenter les rares fois où on pouvait devant des gens qui n'avaient pas forcément envie de rire parce qu'avec le masque, etc., il y avait vraiment pas les conditions pour faire de l'humour, hein. Ça faut être clair qu'à un moment donné, pour moi, dans ma tête, je me suis dit, bah, il faut tout arrêter, puis ma foi, on attendra. Mais quand il y a des gens qui nous disent, et si ça dure pour toujours, c'est vrai que ça, c'est la deuxième question. C'est est-ce que ça va être tout le temps comme ça, quoi? Mm-hmm. Donc, ça a été pénible à ce niveau-là, et puis pénible aussi parce que ma carrière, elle était récente officiellement de 2017. Donc, 2-3 ans, hein, où j'avais pu faire un premier spectacle, mais j'avais pas 20 ans dans les pattes avec un bon gros public qui me suit et un bon gros capital sympathie, on va dire. Donc, il y avait ça qui était compliqué. Et puis après, on a senti que ça changeait quand on a pu reprendre sans les mesures, clairement. Alors là, c'est là que j'ai vu la différence, hein. C'était en juin 2022, si je dis pas de bêtises. Parce que quand les mesures sont tombées en février, il a fallu retrouver des salles. Et là, ça a clairement réouvert des mois d'attente parce que tout le monde voulait un peu se précipiter. Donc, ça m'a pris quelques mois à trouver quelques salles pour le faire avant l'été, puis ensuite le reprendre à l'automne. Et en ayant peur aussi qu'à l'automne, ça recommence, hein, évidemment. Mais là, en fait, ça a été intéressant parce que les 3 dates du mois de juin m'ont montré ce que devenait ce spectacle dans des conditions normales, c'est-à-dire les conditions où les gens voulaient se retrouver, où ils avaient plus de contraintes, où là vraiment ils venaient. Alors évidemment là il y avait vraiment le soutien, c'est-à-dire les gens qui ah bah oui cette fois on vient, et là vraiment beaucoup de rires, beaucoup de compliments, beaucoup de voilà, pour moi il y avait vraiment des réponses. Et puis après la survie suivante, c'était l'année d'après, etc. C'était de pouvoir jouer plus que deux fois dans l'année, quoi. Mm-hmm. Donc, c'est-à-dire de nouveau se battre, chercher des salles, convaincre des gens. Et puis, avec ce qui s'était passé, c'était pas simple. Hein. Enfin, c'était pas simple de récupérer une forme de soutien. Alors, pas forcément du public, mais évidemment d'un milieu que j'ai un peu froissé par mes choix. Même il y a le problème, c'est que c'est des mondes petits où ça parle beaucoup, donc même si les gens savent pas ce que t'as fait, ce que t'as défendu, il suffit de gens qu'on dit mais il faut pas faire avec lui parce qu'il a fait ça, il y a des choses qui sont faussées, et forcément on est aussi tributaire de gens qui nous punissent sans savoir en fait, ou parce qu'ils jouent un rôle avec d'autres personnes, donc il y a tout ça qui était compliqué en fait.
Comment tu prends ça? Ces gens, peut-être que t'as entre guillemets perdu au passage, qui auraient peut-être pu t'aider aussi dans ta carrière ou que sais-je.
Pour moi, alors comme c'est pas un milieu que je connaissais bien, vu que j'y étais pas depuis très longtemps, j'ai découvert que comme dans tous les milieux professionnels, fallait un peu se bagarrer. Il y avait des gens gentils, des gens moins gentils, et puis des gens aussi qui ont leur propre ressenti des choses, hein, des gens qui ont eu leur propre peur et qui te condamnent pas forcément parce que t'es un méchant, hein, qui te condamnent parce qu'en fait, si vraiment tout ça avait été grave, peut-être que on aurait réellement mis des gens en danger, tu vois, faut tout imaginer. Donc, moi, j'en veux pas forcément à plus de gens que ça, parce que chacun a réagi comme il voulait. Mais c'est-à-dire que c'était quand même un peu déroutant en premier, et puis décevant quand même, bien sûr, parce que je pensais que qu'il y avait plus de valeur de discussion, de communication, de liberté, de choses comme ça, et peut-être moins de choses par derrière en fait, qui sont un peu, c'est ça qui est un petit peu triste, mais voilà, après chacun aussi a réagi comme il devait aussi le faire, et c'est sûr que quand vous avez des instances de l'État qui commandent et puis qu'on te souffle, faut montrer un peu patte blanche, on a tous vogué là-dedans. Alors moi, j'ai vogué là-dedans citoyennement, c'est-à-dire que l'humain en moi avait tout un tas de trucs avec quoi il n'était pas d'accord. Mmh. Et pour ceux qui quand les gens vous connaissent pas, donc c'est-à-dire que le milieu artistique me connaît pas vu que je suis là depuis 2017, ceux qui me connaissent mieux depuis plusieurs années savent que j'ai un petit souci avec l'autorité, sans être un rebelle ou un repris de justice.
Vandale.
Ah ouais. Non, mais c'est-à-dire que quand moi les ordres sonnent faux, j'ai un peu du mal en fait. C'est-à-dire qu'à l'instinct très rapidement, je suis dans une forme de défiance parce que je ne comprends pas. Quand c'est contre-productif, quand ça ne fonctionne pas, etc. Mais c'était pareil pour mon métier d'avant, hein, quand les ordres étaient stupides. moi, je n'obéissais pas beaucoup. Donc j'ai toujours eu ça en moi, en fait, de combattre les injustices, on va dire.
Juste pour les gens qui se demandent quel était ton métier d'avant, tu étais horticulteur. Rien à voir avec le business artistique. Rien à voir,
mais j'ai envie de dire, dans l'horticulture, on se bat pas forcément non plus contre des idéologies ou des choses comme ça, mais on travaille dans des grosses sociétés. Moi, j'ai travaillé dans une des plus grosses sociétés suisses de distribution, donc forcément, vous avez des ordres qui viennent de tout en haut, etc. Et puis, comme dans toutes les boîtes, hein, y a des bons patrons, il y a des moins bons patrons, et puis il y a des gens qui ont des idées bizarres, et puis il faut faire avec tout le monde, quoi. Donc déjà de là, mais même à l'école aussi. À l'école, j'étais très curieux, mais j'étais un peu, j'étais un libertarien justement. J'aimais faire les trucs dans mon coin, et puis fallait pas trop me casser les pieds. Donc ça a pas sonné faux ce qui s'est passé avec ce Covid. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si ça devait se repasser, ça se produira la même chose. Et si demain, avec ce qu'on sait aujourd'hui, il y a une nouvelle pandémie, ça risque d'être pire. C'est-à-dire que je risque d'être, si c'est une nouvelle arnaque, je risque d'être très désagréable cette fois-ci, donc peut-être même plus visiblement. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je dois assumer aussi, hein, de toute façon, quoi qu'il se passe. Et puis voilà.
Puis quand on préparait l'émission, tu nous as dit aussi que T'avais une sorte de forme de perte d'innocence que t'arrives plus forcément à avoir la même légèreté sur tout par rapport à ce qui s'est arrivé, par rapport à l'humour. Tu peux nous expliquer ça? Est-ce que c'est qu'est-ce qui s'est passé en fait?
Bah déjà dans le Covid, quand il y a eu la crise, puis que les gens faisaient des vidéos humoristiques sur le confinement, les masques, etc. C'est clair qu'à ce moment-là, j'aurais dû y voir l'absurde et puis peut-être m'en moquer ou rebondir là-dessus. Peut-être que je suis parti dans la bataille un peu plus de façon virulente, avec vraiment une sorte de lutte intestine, et j'ai peut-être pas pris assez de recul. Mais en fait, ça ne m'a pas fait rire. C'est ça le truc. C'est que moi, il y a des choses absurdes qui me font rire plus légères, comme par exemple, on peut dire le climat. Il y a des choses dans le climat qui sont un peu exagérées et il y a une absurdité où le tout électrique, etc. Il y a une absurdité derrière qui est drôle. Mais quand on touche à quelque chose qui est de l'ordre quand même de se taire, de l'emprisonnement à quelque part, hein, de la contrainte, des espèces de clés de bras qu'on te fait pour te forcer à faire quelque chose, et même justement cette fameuse vaccination qui était fort contrainte. C'est-à-dire pas forcé, on venait pas te chercher avec l'armée, on est bien d'accord. Mais quand au bout d'un moment, on te fait comprendre que si tu ne le fais pas, tu risques de tout perdre et ton travail, etc., ça devient très compliqué. Donc moi, ça me faisait pas rire, ça. Et j'arrivais pas à en faire de l'humour. Et puis, les choses étant passées, il y a les dégâts, en fait, de ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a le dégât un peu... psychologique de ce qu'on a vécu. Alors j'en sors pas traumatisé avec un burn-out ou peut-être comme des enfants qui ont vécu autre chose avec l'école, le masque, etc. Mais je me suis posé la question, hein. Je me suis dit est-ce que après le Covid je vais faire une dépression de fatigue, parce que j'étais vraiment, il y a vraiment des semaines où je me sentais tiré énergétiquement de tous les côtés, quoi. Donc je me suis dit, est-ce qu'il va m'arriver ça? Bon, ben pour l'instant c'est pas le cas, mais après coup, il y a toute la réflexion sur ce qui s'est passé. C'est vrai qu'aujourd'hui on se dit c'est dommage certains rapports avec les gens, c'est dommage certaines condamnations que les gens ont fait, c'est dommage la cassure de liens avec certaines personnes, et même si on essaye de recoller les morceaux, etc., ben ce sera peut-être long, puis des fois ce sera peut-être définitif. Donc voilà, il y a un peu cette cassure aujourd'hui qui donne l'impression qu'on a vécu un truc, en tout cas suffisamment violent pour que ça laisse des traces. Et c'est vrai qu'avant le Covid, j'étais peut-être plus innocent et naïf sur certains trucs. J'étais certainement, comme beaucoup de gens dans mon monde de divertissement, de télévision, de choses légères, voilà, très légères. Et aujourd'hui, ben tout ça m'a poussé à m'intéresser à beaucoup plus de choses. Et cette légèreté, alors je ne vais pas dire que je l'ai perdue, parce que je suis quand même capable encore de faire l'imbécile, mais j'ai l'impression d'être un petit enfant qui a dû grandir trop vite, par exemple, de la séparation de ses parents, quoi. Où tout d'un coup, il y a un retour au réel. C'est un retour au réel, une petite claque dans la figure. Et puis, ah ouais, mais le monde, c'est aussi des choses complexes et désagréables, en fait.
Mmh. Est-ce que, justement, ton regard sur l'industrie du divertissement a été modifié?
Oui, parce que... Alors, pour deux raisons. Pour les raisons un peu de déception de ce monde artistique international qui n'a pas dit grand-chose, en fait. Qui n'a pas défendu beaucoup de liberté, de questionnement. Et puis, même s'ils avaient beaucoup, le monde artistique avait certainement beaucoup l'impression de ne pas être légitime de parler peut-être de ça, hein, ce qui n'est pas scientifique, médical. Mais je ne sais pas, on a quand même déjà un devoir de défendre son milieu artistique. C'est-à-dire, on doit les faire rire, on doit laisser les théâtres ouverts, on doit trouver des solutions. Et puis, donc ça a déjà été un peu complexe. Et puis après, quand on fait, justement, qu'on s'intéresse à tout ce qui se passe, moi, en faisant beaucoup de recherches sur beaucoup de sujets, j'ai un peu découvert que le milieu du divertissement, alors plutôt l'international, hein, plutôt l'américain, on va dire, le Hollywood, l'industrie de la musique, etc., était finalement potentiellement une bonne grosse machine de propagande, d'influence et de, et de, et de modification de la pensée des masses, hein. C'est-à-dire que on se rend compte que finalement dans la musique ces dernières années, je l'ai beaucoup plus parti en réflexion là-dessus, mais on voit que par exemple le phénomène du girl power, par exemple des femmes fortes qui s'émancipent, qui était un très, moi j'adorais, hein, la période de Xena la guerrière et tous ces trucs là et Spice Girl et tout, mais ça a permis d'amener en fait toute cette féminisation à outrance et sexualisation de la femme, par exemple. Toute cette industrie a amené gentiment les chanteuses, puis ensuite les chanteuses à moitié nues, puis ensuite les chansons très suaves, etc., les Britney, où elles se roulent par terre. Et on voit qu'aujourd'hui, cette industrie, c'est devenu une catastrophe. C'est-à-dire qu'on est, plus très loin du porno. Et c'est avec le recul de ces 20 dernières années que je me dis, mais est-ce que cette industrie a voulu finalement sexualiser des jeunesses, des enfants, des adolescents, des futurs adultes qui aujourd'hui trouvent ça normal? Aujourd'hui, je vois des parents trouver normal que leurs enfants de 8 ans voient des femmes à moitié nues se frotter contre des barres et faire couler du lait en bas la bouche comme si elles avaient pratiqué un acte sexuel. Donc, je fais pas mon vieux, hein, je vais pas faire mon vieux de 40 ans. Je fais pas mon vieux de 40 ans qui dit qu'il faut pas ci ou il faut pas ça. Mais il faut avoir la réflexion de tout ce qui se passe pour peut-être se dire, est-ce que il y a des dérives ou des choses qui dégénèrent dans ces milieux artistiques? Il y a beaucoup de gens qui ont parlé ces dernières années, par exemple, de satanisme. C'est quelque chose, moi, qui m'avait jamais interloqué, jamais questionné. Et en finalement, en observant toute la dernière industrie musicale de ces 5-6 dernières années, voire plus, on réalise que c'est quand même troublant. Il y a vraiment beaucoup d'allusions au diable, de perversité. Ouais, les images sont pas belles, quoi. Je veux dire, tout est.
Mais même dans les trucs officiels, genre l'ouverture du tunnel du Gotthard, l'inauguration, etc., c'est affreux.
Voilà, on l'a vu dans des cérémonies, dans des choses comme ça, et de nouveau, c'est pas une manière de dire qu'il y a quelque chose à faire ou pas faire, parce que si on prend de la culture, si on prend la culture pop ou le divertissement, il faut tout faire. Il faut bien sûr faire des films sur le diable, il faut parler de tout ça. Mais on voit qu'il y a une petite musique derrière, en fait, tout ça. On voit qu'on veut vraiment trouver... L'idée, c'est cette fameuse fenêtre d'Overton qu'on déplace très lentement pour que les gens commencent à trouver ça cool, en fait. Et qu'est-ce qu'il y a après? C'est ça, c'est quelles sont les prochaines étapes de « Ah, mais c'est cool, la perversité, le diable, etc. » Parce que je crois qu'on ne mesure pas toujours les dégâts que ça fera à long terme, en fait, pendant plusieurs décennies. Je pense que c'est bien de regarder. Mais après, de nouveau, il faut être ouvert à tout, y compris dans le divertissement et la culture. Donc, ce n'est pas une manière de dire qu'il y a un truc qui est plus juste qu'un autre. Mais je trouve qu'aujourd'hui, si on prend du recul et qu'on observe, il me semble qu'il y a quelque chose d'excessif et d'étrange. Mmh.
Moi, quand tu racontes ça, Mirko, ça me rappelle vraiment cette phrase que j'ai entendue tellement souvent par des parents, par des gens quand tu abordes un problème de société, c'est « Mais c'est la société qui est comme ça, de toute façon, on ne peut rien y faire. »
Ouais.
C'est qui la société? C'est nous.
Oui, alors
responsabilité,
voilà.
Ouh.
Mais tu vois, c'est intéressant cette phrase « On ne peut rien y faire. » C'est comme la phrase qu'on m'a dit dans le Covid, mais Mirko, tu sais très bien qu'on ne peut rien dire. Mais c'est terrible, c'est affreux. Cette ça veut dire, mais pourquoi on ne peut rien dire? Bien sûr, déjà, oui, on peut dire. Le jour où on ne pourra rien dire, c'est qu'on viendra me chercher chez moi pour me mettre dans une cellule. Puis là, on ne pourra rien dire. Mais on peut dire, simplement, ben, visiblement, il y a des conséquences. Et ces conséquences, ben, je les ai frôlées, je les ai touchées, je les ai assumées, j'en ai palpé des biens clairs, bien visibles. Donc, on peut dire les choses, comme les gens qui disent on peut plus rire de tout. Alors, si, on peut rire de tout, mais on pourra pas rire de tout n'importe où, avec n'importe qui et n'importe comment, en fait. Alors, si on décide de le faire, puis de s'en fiche, oui, mais si on décide de le faire avec effectivement toute une société ou un système à côté qui dit non ça t'as pas le droit, bah il y a des conséquences qui est très dommage, hein, parce que on perd justement à chaque fois des petites libertés qui sont grignotées sans s'en rendre compte, parce que justement on les enlève sous couvert d'acceptabilité. ah mais on va enlever ça sinon c'est pas acceptable, ah puis il faut pas dire ça, c'est bah, par exemple dans le prochain spectacle que je suis en train d'écrire, j'ai envie de faire un accent africain parce que j'adore cet accent, et puis comme dans tous mes spectacles j'ai toujours fait des accents. Le dernier spectacle que j'ai fait, j'ai un accent canadien, j'ai un accent allemand, j'ai un accent. Alors je me dis, je vais faire l'accent africain, mais j'ai entendu des gens me dire, Mirko, faut pas faire l'accent africain, on n'a plus le droit. Ah. Mais pourquoi on n'a plus le droit? Sous couvert potentiellement de racisme. Mais alors c'est raciste si je fais un canadien, c'est raciste si je fais un portugais ou comme ça, tu vois.
Donc. Et Blanche-Neige est métisse.
Oui. Donc, non. Mais tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il faut prôner une forme de wokisme, c'est-à-dire une ouverture justement totale à tout ça. Ben, le wokisme, c'est ça. Hein. Faut mettre des quotas de personnes africaines dans les films, faut mettre des quotas de personnes asiatiques, nanana, pour répondre à des normes. Et en fait, quand toi, tu te dis, je vais imiter une voix africaine parce que j'aime bien ça, on t'explique que toi, t'as pas le droit, c'est interdit en fait.
L'appropriation culturelle.
Voilà, mais c'est bizarre, tu vois, c'est très étrange. Alors qu'en fait, tant qu'on est dans la bienveillance, tant qu'on a envie de s'amuser, de rigoler et de justement pas être méchant et de pas pointer des choses du doigt inutilement, il faut faire de tout. Mais c'est fou aujourd'hui de se dire, quand on écrit, est-ce que je peux faire ça ou est-ce que je dois faire ou pas faire ça, quoi.
Ouais. Est-ce que justement les gens sont pas assez conscients que il y a des tentatives quand même de les manipuler. Donc bon, on connaît ça avec toutes les méthodes de propagande qui sont d'usage dans le commerce, hein, aussi dans pour vendre des produits. Là, c'était ces campagnes pour que les femmes fument, par exemple, dans les années 40. Est-ce que justement, comment est-ce qu'on peut faire pour développer l'esprit critique des gens?
Bon, je pense que ces dernières années ont quand même participé à un tournant. Hein. Moi, j'ai quand même l'impression, il y a toujours des gens qui sont déçus par le temps qui passe en disant « mais non, pas assez » ou « pas assez vite ». Mais ça, c'est un truc personnel qu'on ressent par rapport à notre impatience. Moi, honnêtement, je vais être plein d'espoir. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui changent leur état d'esprit et je pense que ça va être contagieux à terme. Je vois les jeunesses aussi changer d'état d'esprit. J'ai discuté, moi je donne des cours de théâtre à des enfants et j'ai des enfants qui m'ont dit à l'école, on nous a dit qu'on pouvait au cours d'éducation sexuelle, on nous a expliqué qu'en fait on pouvait changer de sexe si on voulait. Bon, moi personnellement...
Ils te disent ça en cours de théâtre?
Non, alors ça, ils me l'ont dit au cours de théâtre, parce qu'en fait, ils m'ont parlé de différents sujets, puis la parole des enfants se libère hein, quand on les met suffisamment à l'aise, etc. Ouais. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui m'a dit, voilà, je leur parlais de tolérance, en fait, parce qu'on a une fille qui fait des cours avec moi qui a un autisme, qui a une sorte de trisomie et qui est vraiment géniale. Le théâtre lui fait énormément de bien et tout. Et j'ai parlé au groupe avant qu'elle arrive de tolérance pour qu'elle essaye de faire du théâtre. Et c'est en parlant de tolérance qu'on a parlé, voilà, d'amour, des gens comme ils sont, en fait, hein, avec leur choix. Et puis en parlant de ça, ils sont venus sur ce sujet à l'école. Alors, ben, y a quelque chose d'un petit peu dérangeant là-dedans, même s'il faut parler de tout. Hein. Je suis pas d'avis qu'il faut pas non plus dire aux enfants qu'il n'existe pas ça. Après, il faut pas en faire non plus de la propagande. Mais ce qui m'a fait plaisir, c'est d'entendre les enfants dire « Mais pourquoi on nous dit ça, en fait ? Ça n'a pas d'intérêt. » Je veux dire, moi, d'avoir des filles de 12-13 ans qui disent « On est gêné qu'on nous dise ça à l'école parce que ça nous concerne pas. » Et ça leur paraît trop insignifiant pour avoir sa place à l'école, en fait. Et ça veut dire que c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a des enfants qui arrivent à trouver ça hors contexte, on va dire, et pas forcément pertinent et qui rentrent pas en se disant « je vais me faire opérer parce qu'on m'a dit à la maison ». Donc voilà, je pense qu'il va y avoir une évolution des choses, mais elle va participer, pour répondre à ta question, Charlie, elle va participer à ce qu'on continue à développer ça. C'est-à-dire continuer, comme le font des radios comme vous, indépendantes, développer de l'esprit critique, développer du questionnement, et puis pas dire à un humoriste, mais toi, tu dois faire de l'humour, puis tu dois pas poser de questions, parce que c'est pas ta place. Mais c'est la place de tout le monde de poser des questions, et c'est la place de tout le monde de faire des recherches et de s'interroger, et s'intéresser au monde dans lequel on vit, en fait.
Alors, ça me permet de rebondir, Mirko, parce que un jour, tu m'as soufflé, je me souviens plus, mais genre le nombre d'heures de reportages et d'analyse que tu as suivi pour être au fait de l'actualité internationale. C'est énorme. T'as énormément étudié la question.
En fait, c'est drôle parce que à l'époque, je pense que je regardais même pas le téléjournal. Mais c'est peut-être un bon signe. Peut-être mon cerveau n'a jamais voulu regarder le téléjournal. Peut-être qu'il y a un truc qui sonnait faux. Mais depuis le Covid, où on avait du temps déjà, c'est clair qu'en étant quasiment toute la semaine à la maison à attendre finalement de retourner travailler, je me suis dit, bon ben, puisque tout ça est assez intéressant pour être bizarre, je vais creuser des sujets en fait. Donc j'ai creusé beaucoup de sujets et puis... mais politique, géopolitique, scientifique, médical, nature, tout. Enfin bon, bref, je suis vraiment allé refaire, on va dire, ma scolarité.
Ta et, culture.
Voilà. Et en fait, j'ai mangé pas loin de 5 000 heures d'informations, ouais. Alors je l'ai fait sur une base d'un calcul assez simple, c'est que j'avais enregistré énormément de liens dans les notes de l'iPhone. J'avais enregistré les liens des vidéos que je devais aller regarder. Et puis, j'ai fait à peu près une base en sachant que toutes les vidéos duraient à l'époque entre 1h30 et 2h. J'ai fait une base en me disant, bah voilà, j'ai tant de vidéos, j'en ai regardé. À peu près par jour, honnêtement, je pense que le matin, je regardais 2-3 heures d'émission, l'après-midi aussi et le soir encore avant de me coucher. Donc, j'étais presque à... C'est comme si je passais ma journée devant la télé, en fait. Je passais à peu près 6-7 heures d'informations, alors que j'avais beaucoup dans les oreilles. Ça m'empêchait pas d'aller dans la nature, de me promener, mais j'écoutais finalement beaucoup. Et puis après, il y a aussi des articles que j'ai lus, des choses comme ça. Mais ouais, je me suis vraiment beaucoup, voire trop intéressé. Je me suis même dit à un moment donné, tu vas faire une overdose de tout ça et tu vas péter un plomb. En fait.
Ouais. Quelles étaient les choses les plus marquantes que tu as constatées là, dans ces 6000 heures?
Je crois, alors si on le prend de façon très basique, je crois en fait la réalité, en guillemets, peut-être politique de notre monde. C'est-à-dire que c'est pas juste des gens qui prennent des décisions pour qu'on soit tous bien, avec un grand sourire, puis qu'on digère bien notre repas de midi et du soir. Je crois que réaliser qu'il y a des gros enjeux, qu'il y a des gros intérêts, alors ça va faire très bisounours, parce qu'il y a plein de gens qui vont dire, mais on le sait qu'il y a des intérêts financiers, etc. Mais c'est l'ampleur de ça, en fait. C'est l'ampleur de ces intérêts, c'est l'ampleur des gens qui décident. Et puis, on peut après se poser toutes les questions qu'il y a autour. C'est-à-dire, est-ce que ce serait pas bien arrangeant de nous mettre dans un système où on est un peu du bétail, hein, pour parler un peu vulgairement? Est-ce que ce serait pas bien pratique qu'on soit un grand champ avec des petites bêtes? Et puis, les petites bêtes, bah, il faut les mettre là où il faut aller les mettre. Il faut qu'elles mangent ce qu'on leur dit de manger. Il faut qu'on, après, on peut tout penser, hein. Est-ce que ce serait pas pratique qu'on soit malade? Est-ce que ce serait pas pratique qu'on meure un peu? Est-ce que ce serait pas, voilà, il faut tout penser parce qu'en fait, cette réflexion, même si elle est complexe, elle pousse quand même à imaginer. Alors évidemment, ça fait de nouveau complotiste, hein, de se poser des questions comme ça, mais elle pousse à imaginer quels intérêts auraient quoi à faire avec l'humain. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on sait que c'est l'argent en grande partie qui dirige cette planète, ben, comment faire de l'argent? Alors, il faut qu'on consomme. Mais pour qu'on consomme, il faut qu'on soit propice à consommer. Par exemple, s'il faut consommer des médicaments, on ne va pas les consommer si on est en bonne santé. Donc, peut-être qu'il faut qu'on ne soit pas en très bonne santé. Donc, voilà, il faut toutes ces questions-là, il faut se les poser, en fait.
Ouais. Et selon toi, quels sont les plus gros tabous contemporains?
À propos de...
Du monde dans lequel on vit.
Oh, je crois que... ça avait été dit ces quelques dernières années, mais je crois qu'il y a un gros sujet sur cette pédophilie, en fait. On voit que ça, c'est compliqué parce que, évidemment, ça touche les enfants, ça touche l'innocence. Et puis, selon les réseaux qu'il y a derrière ça, on voit que c'est très problématique, hein, parce que apparemment, voilà. Donc, je pense qu'il y a ça. Et puis, il y a certainement tout ce qu'on ne sait pas. Alors, on verra bien comment on le saura ou qu'est-ce qui peut se passer. Mais c'est compliqué, ça. Hein, parce que comme ça, je ne pourrais pas te dire. qu'est-ce qui est tabou, qu'est-ce qui ne l'est pas. En fait, c'est quand tu creuses ces sujets-là qu'on voit que tout d'un coup, faut pas aller dans une, enfin, on trouve pas grand-chose ou on sait pas trop dans quelle direction chercher l'information. Mais faudrait aller sur le dark web pour trouver les tabous, en fait, pour se dire ah tiens, ça c'est compliqué, etc. Mais ça, je saurais pas trop dire. Mais je dirais, en tout cas, ce qui touche aux enfants, ça semble compliqué, ouais.
Moi, j'avais aussi une question, Mirko, parce que je t'ai toujours suivi sur les réseaux sociaux. Et puis, parfois, j'avais l'impression que tu avais vraiment quelques longueurs d'avance et que tu étais assez sûr de toi. Et j'ai envie de te demander, est-ce que tu as vraiment une vision future assez claire de ce qui va se passer?
Alors, en fait…
Par exemple, en 2025, en 2026?
Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est quelque chose où j'ai senti que ça agaçait des gens, en fait. C'est-à-dire que quand je posais des questions, quand je disais « mais potentiellement, il se passe peut-être ça », ça agaçait des gens qui se disaient ah « ben oui, mais si c'est mieux que tout le monde, il a qu'à le dire ben, ». Moi, je ne peux pas forcément dire ce qui va se passer parce que je ne suis pas devin. Mais bon, ce qui m'a un peu perturbé, c'est de voir que quelques sources que j'avais suivies pendant le Covid, tout ce qu'ils ont annoncé avec 2-3 ans d'avance, c'était produit. Donc déjà là, je me suis dit « ah, ok, on en est là ». Pour dire un truc simple, à un moment donné, j'ai dit à ma mère, écoute, de toute façon, ce pass 2G, il va tomber dans quelques semaines, ça va être fini, il n'y aura plus ces passes et ça va se casser la figure. Puis ma mère me dit, mais t'en sais rien, en fait, ça va être peut-être pour toujours ces passes pour rentrer dans des pizzerias. Et je disais à ma mère, non, je lui dis, écoute, tiens encore. Ma mère, elle n'était pas non plus allée se faire injecter. Je lui dis, mais écoute, tiens encore et à mon avis, ça va être fini. Et effectivement, c'est tombé 2-3 mois après. Ma mère, elle m'a dit, mais comment tu sais ça? J'ai dit, mais parce que les trucs que je fouille, justement, dans ces 5000 heures, apparemment, il y a des gens qui ont l'air de savoir des choses. Alors, je sais pas d'où ils les savent, comment ils les savent, etc. Mais en tout cas, les choses se produisaient. Et puis, relié à ça, j'y mettrais mon instinct. Parce que j'ai vraiment énormément toujours écouté mon instinct toute ma vie, y compris jeune. Ça m'a toujours permis, je pense, de prendre des décisions intéressantes, de me sortir de situations avant qu'elles arrivent. Parfois, hein, j'ai senti que je partais dans des directions où j'étais potentiellement en danger. J'ai vécu du harcèlement, des choses comme ça. Et pourtant, j'en suis sorti donc sans dégâts, en fait, sans dégâts gravissimes. Et pour ça, j'ai toujours écouté quelque chose en moi. Donc, je disais à Charlie hier, je disais, quand on a des sources d'informations… Moi, j'en montrais à ma maman, je disais, tiens, écoute ça, c'est intéressant. Et ma mère, elle me disait, mais on est vite perdu, puis on ne sait pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Et je disais à ma mère, mais je pense qu'à un moment donné, à l'intérieur de toi, il doit y avoir une sorte d'instinct qui doit te donner l'impression que ça te semble juste. Si ça te semble juste, continue. Ce n'est pas à quelqu'un de te dire que c'est faux, en fait. Parce que cette personne, elle n'en sait rien non plus. Donc, si ça te paraît juste… Continue à écouter, ça va rien changer à ta vie. Je veux dire, demain, là, je peux t'annoncer des trucs dans les prochains mois, ça va rien changer à nos vies, que ça se produise ou pas. Puis je prends pas le risque de dire il va se passer ça dans 6 mois parce que nanana, mais parce que si ça se passe pas, je vais passer pour un con. Et puis si ça se passe, je vais passer pour un taré qui comment il sait ça, nanana, donc ça va énerver des gens. Et c'est ça qui est compliqué aussi. Mais moi, je suis plutôt, j'ai un sentiment positif sur ce qui va se mettre en place. Je pense qu'il va se passer des choses positives dans les mois et les années qui viennent. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas être long. Je crois qu'il faut que les gens n'oublient pas qu'on ne va pas avoir un changement d'un monde merveilleux en 15 jours. Ça ne va pas arriver en 15 jours, ça va prendre du temps. Mais alors après, à quelle vitesse il va y avoir des accélérations de choses potentiellement bénéfiques, ça je ne sais pas, ça peut aller vite. Et puis, je pense qu'il ne faut pas oublier que potentiellement, il doit se passer des choses pour que les gens se réveillent aussi. Moi, je suis assez persuadé que beaucoup de choses par le passé, ces 4 dernières années et les prochaines, ne se sont pas passées pour rien. C'est-à-dire que je pense que ce que des gens ont vécu comme des affronts et des attaques, et puis potentiellement un horrible nouvel agenda qui va nous faire du mal, moi, j'avais plutôt le sentiment que ça servait à montrer quelque chose qui était... potentiellement contrôlé, en fait. C'est-à-dire pour aussi montrer le système déraillé, en fait. C'est peut-être ce qu'il faut aller voir derrière. Avant d'y voir la première chose désagréable, essayons de voir l'opportunité de la chose qui déraille et qui montre quelque chose, en fait. Ça, c'est mon regard peut-être de, artistique, c'est-à-dire d'observateur, hein, parce que moi, j'observe beaucoup, tu vois, si je vais dans la rue, dans un bar, j'observe beaucoup les gens, les personnages, etc. Et peut-être que mon côté très observateur fait qu'à chaque fois que... Mais je le disais pendant le Covid, hein, à chaque fois qu'il y a beaucoup d'informations, j'essaie de me mettre un peu en dessus et puis de les décrypter pour en avoir un truc en dessus. Mais ça ne veut pas dire que ce sera juste ou pas juste. Ça veut juste dire que moi, je fais ce choix-là et puis ensuite, je regarde ce qui se passe et puis après, on verra bien.
Magnifique, magnifique. Donc, cultiver sa curiosité, cultiver son intuition aussi. Et puis pour reprendre, se réapproprier ben, l'actualité, le monde dans lequel on vit, puis le comprendre aussi, ouais.
S'intéresser à tout et pas se restreindre dans les choses qui nous intéressent. On en parlait hier avec Charlie. Si demain vous voulez vous intéresser aux extraterrestres, il faut vous intéresser aux extraterrestres. Il faut aller sur tous les sujets. C'est-à-dire que pourquoi quelque chose serait plus stupide qu'une autre? C'est comme quelqu'un qui dit je vais vous poser une question conne, mais elle est jamais conne une question. Pose ta question. Alors il y a des gens qui diront si il y a des questions connes, mais non, il faut poser des questions. Et demain, si n'importe quel sujet vous intéresse, il faut vous y intéresser parce que peut-être qu'à votre instinct ça veut dire quelque chose, peut-être qu'il résonne quelque chose. Et si un sujet vous intéresse pas, parce que je pense qu'il y en a moi qui m'intéresse peut-être pas ou je vais pas beaucoup dedans, et peut-être qu'un jour ça fera sens d'y retourner.
Mais comme tu disais, il y a eu vraiment pléthore d'informations, quoi. Il y a eu les reptiliens, il y a eu les extraterrestres, il y a eu la Terre plate, il y a eu la Lune, il y a toutes les situations géopolitiques, il y a les trucs qu'on n'a jamais entendus avant. C'est pas évident à gérer, quoi.
Mmh. Quelles sont les sources, par exemple, toi, tu parlais aussi des médias, du rôle des médias indépendants, mais, ou des canaux sur YouTube, ou des personnes qui se sont spécialisées dans certains domaines. Quels sont, toi, tes préférés, tes canaux préférés pour justement retrouver ces infos qu'on trouve pas forcément ailleurs?
Bon, moi, j'écoute des trucs assez, je suis toujours déjà sur des choses assez basiques en premier lieu, c'est-à-dire que j'écoute des médias comme Tocsin, comme André Berkoff, Idriss Aberkane, Jean-Dominique Michel, voilà, j'écoute beaucoup de gens déjà comme ça parce qu'il y a beaucoup d'informations déjà par semaine, hein, à manger selon les sujets d'actualité. Après, quand on fouille déjà, par exemple sur YouTube, ne serait-ce que ce genre de vidéos, on a des propositions ensuite qui viennent par les algorithmes, et c'est déjà intéressant ensuite d'aller voir d'autres choses qu'on connaît pas ou qu'on voit passer. Mais c'est tout à chacun dans un moteur de recherche de taper quelque chose. C'est-à-dire si demain vous voulez taper civilisation, si demain vous voulez taper magie, si demain vous voulez taper vitamines, si vous voulez taper médecine, etc. Vous tapez et puis ensuite vous regardez ce qu'on vous met sous le nez. Alors il y a des choses à apprendre qu'on nous met sous le nez qui sont peut-être convenues, et puis il y a peut-être des choses ensuite qui sont moins visibles, mais qu'on trouve en continuant de chercher un petit peu. Et puis, il y a énormément de conférences, je trouve, qu'il faut regarder avec des gens vraiment très intéressants qui ont énormément de choses à dire. Par exemple, ces dernières semaines, je me suis beaucoup intéressé aux soins du cancer. Et je me suis beaucoup intéressé finalement à ces molécules, hein, qui ont un peu disparu de la course, ou des choses comme le bleu de méthylène, par exemple, que je ne connaissais pas. Et puis justement les vitamines qui en fouillant un petit peu même dans les boîtes de vitamines, je réalise que les dosages sont absolument ridicules. Aujourd'hui, la vitamine C, on la prend comme un tic-tac, c'est-à-dire que ça n'a pas de valeur. Et j'en parlais avec quelqu'un dernièrement, où je disais, mais est-ce que tu savais qu'il fallait normalement avoir 10 grammes de vitamine C par jour dans le corps? Et cette personne m'a répondu, ah oui, mais avec quelques oranges, c'est bon. Non, il y a déjà pas assez de vitamine C dans les oranges pour avoir cette quantité-là. Et puis aujourd'hui, les fruits et les légumes n'ont plus les quantités de vitamines qu'elles avaient.
Non, les valeurs.
Voilà. Donc, c'est intéressant. Puis quand on prend la posologie des meilleures vitamines C en Suisse, qui sont les plus dosées, et quand je dis dosées, on parle de 500 mg, hein, la capsule, on t'explique un peu dans le mode d'emploi, sans te faire peur, qu'il faudrait pas prendre plus que 2 capsules par jour. puis après, je continue à lire, tu vois, la toute petite posologie. J'ai dit, mais il se passe quoi si je prends plus que deux capsules? Ah, ben, tu risques de faire pipi. Donc, c'est assez fascinant. Mais tu vois, on te vend un peu une phrase effrayante, puis après, on te dit qu'en fait, tu vas un peu faire pipi ou peut-être que tu auras un peu mal au ventre, mais ça devrait passer. Mais c'est de la vitamine C. Donc, effectivement, ton corps en a pas besoin, tu la pisses, tu vois. Donc moi, j'ai essayé, hein. Ben voilà, tu vois, j'ai essayé de prendre plus de vitamine C, mais en fait, tu réalises que c'est contraignant. C'est contraignant par le prix que ça coûte. C'est-à-dire que la vitamine C, à 30 francs la boîte de 100 gélules, c'est très cher quand même. Et puis que si tu veux arriver à ne serait-ce que 5 ou 10 grammes par jour, il faut t'en becter 20 à 25 gélules, quoi, si c'est pas plus. Du matin au coucher. Ça veut dire qu'en fait, tu passes ta journée à avaler des pilules. Et puis, tu découvres qu'aux États-Unis, la vitamine C, elle est disponible en 2, 3, 4 grammes. Mais pas en Suisse. Donc, c'est intéressant. Et honnêtement, je vais te dire, hein, les quelques fois où je suis tombé un peu malade avec un rhume, je me suis gavé de vitamine C. Donc là, j'ai avalé mes pilules de milligrammes de vitamine C et j'ai torcher un rhume en 24 heures. C'est-à-dire que je récupérais beaucoup plus vite que quand je disais « je vais prendre un prétuval et puis je vais voir si je suis malade demain ». Ben oui, j'étais malade demain, hein, puis j'étais malade pendant une semaine. Hein. tandis qu'aujourd'hui, je me dis « bon, je sens un truc, je vais de nouveau à l'instinct, je sens le corps qui se passe un truc, je prends mes petites pilules dans ma journée, blablabla, je continue à manger des légumes, des fruits, boire beaucoup d'eau, etc. Et tout d'un coup, comme je l'ai dit l'autre jour, ça fait tout cet hiver où je n'ai pas été malade, en fait.
Ouais.
Alors voilà, de nouveau, je ne suis pas en train de dire que j'ai raison, que j'ai fait juste, que nanana, mais en tout cas, j'essaye, je suis curieux, j'essaye.
Et tous ces savoirs-là, est-ce que tu comptes les intégrer dans tes futurs spectacles pour faire quelque chose de pédagogique ou tu vas rester simplement…
Non, alors écoute, je crois pas parce que à Astari, je fais des conférences, tu vois, puis j'essaie de faire des conférences un peu rigolotes et puis je pars à travers le monde avec ma besace raconter mes histoires. Mais non, je crois que l'humour, moi, je veux que ça reste quelque chose d'assez léger quand même pour que les gens oublient un peu leur tracas. J'ai pas envie qu'ils viennent dans une salle en se disant « Ah, il nous a rappelé qu'il y a la guerre, non. » Voilà, on peut en faire des parenthèses, on peut s'en moquer dans un spectacle d'une certaine manière, mais moi, je suis pas un de ces humoristes qui dénoncent, on va dire, sur scène. Je le fais de façon plus subtile. Je mets des choses dans mes personnages, dans mes trucs, qui fait qu'il y a des petites informations, mais c'est pas demain, venez voir mon spectacle pour avoir les infos que vous n'avez pas, ce sera pas ça. Par contre, c'est venez voir un spectacle pour que le être ensemble, le lien, et puis que le fait de rire va vous booster votre immunité. Voilà, venez prendre un shoot immunitaire.
Ouais, vitamine clown.
C'est ça.
Vitamine clown, c'est joli. Tu peux nous donner 2-3 pistes pour celles et ceux qui n'ont pas vu ton spectacle, qui pourraient venir le découvrir encore pour la dernière fois le 2 mai? De quoi tu parles, des pistes sur les personnages que tu fais ou sur les sujets que tu traites?
Bah, il a été écrit, ce spectacle, il a été écrit en 2019. Et un peu début 2020. Donc, il était avec les choses du moment qui me faisaient un peu rire. Et il y avait donc les influenceuses sur Internet. C'est toujours l'actualité d'ailleurs, hein, mais finalement, de se vendre sur Internet ou de vendre ses produits qui sont souvent des arnaques. Hein. Il y en a une, elle vend des crèmes de la forêt amazonienne testées sur des orangs-outans volontaires. Mais donc, si tu veux, il y a un peu des arnaqueurs à ce niveau-là. Donc, c'est ça, en fait. Moi, je fais rire avec l'influenceuse qui vont s'adaube, mais derrière, on comprend qu'il y a des arnaques et que ces gens ne sont pas forcément tous fiables. Je fais une petite racaille en réinsertion parce que le petit côté wesh comme ça, madame et tout. ça m'a permis, tu sais, de mettre, si tu veux, l'ethnie de ce garçon qui vit dans ces cités en France et où sa mère travaille et que c'est la galère, etc. Donc, ça me permet de mettre ça. Mais je fais Fanny Ardant aussi parce que dans Rendez-vous en Terre Inconnue, c'est une émission que j'adore. Et d'imaginer Fanny Ardant dans une peuplade africaine en train de devoir manger des choses qu'elle ne mange pas ou de devoir aller aux toilettes derrière une hutte me faisait beaucoup rire. Et J'avais fait un coach spirituel aussi et ça me permettait de pas de me moquer des parce que la spiritualité a pris une place depuis le Covid. C'est ça qui est intéressant. C'est que les gens rient beaucoup parce qu'on voit que tous ces coachs spirituels, etc., sont très à la mode. Mais de nouveau, il y a des arnaques. Hein. Il y a des gens qui se disent demain coach, alors que juste parce qu'ils donnent des conseils sur comment bien larguer ton mec, quoi. Donc, c'est un peu ridicule. Mais voilà, il y a un peu tout ça dans le spectacle. C'est vaste. C'est une 12-13 univers vraiment différents. Instagram, Viking, racaille, voyage en boue.
Qui est-ce que tu imites?
Fanny Ardant.
Parce que je sais que tu fais des imitations.
Bah, dans le spectacle, Fanny Ardant.
Ouais, Fanny Ardant, c'est tout.
Fanny Ardant, voilà. Okay, je l'imite parce que je trouve que c'est intéressant de partir au bout du monde dans cette tribu Amael. Vous connaissez?
Oh, oui.
Vous voulez venir avec moi, Amael?
Oui. Oui. C'est top. Okay. On est déjà à 50 minutes d'interview, Charlie. Je sais pas si on lance gentiment aussi les billets de spectacle.
Oui, les billets de spectacle. Pour ceux qui nous écoutent là, vous pouvez nous écrire à info@radiolibre.ch pour obtenir un ou deux des 12 billets qui sont à disposition, offerts par Mirko pour la dernière de ce spectacle. Donc, en toute discrétion, ce sera le 2 mai à Saint-Pré. Écrivez-nous info@radiolibre.ch. Après, il y a aussi la petite partie privée. Hein. Après le live en direct, l'émission privée, on se retrouve toujours et on donne l'adresse aussi pour les auditeurs qui nous écoutent. Si vous voulez nous rejoindre et puis discuter avec Mirko. Et puis, moi, je voulais aussi poser une question à Mirko. Quelles sont les personnes ou les personnages historiques que tu as admirés ou que tu admires?
Ouh, alors là, tu m'en poses une bonne. Ma grand-mère.
François Sylvan.
Ouais, alors si je prends des humoristes pour rester, on va dire, dans mon domaine, oui, ce sera des gens effectivement comme François Sylvan, qui est plus là aujourd'hui, mais que j'avais vu quand j'étais petit et qui m'a aussi donné envie, mine de rien, de monter sur scène. Après, je pourrais pas te sortir des personnages politique ou comme ça. T'as dans un premier lien, je dirais que je me suis plus intéressé à aujourd'hui, on va dire, qu'à ce qui s'était vraiment passé dans le passé. Et de temps en temps, je regarde des émissions sur ce qui s'est passé dans le passé pour avoir des compréhensions. Mais je dirais que celui qui a joué peut-être un rôle sur ce qui se passe peut-être beaucoup plus aujourd'hui, ça reste Kennedy, en fait, je pense.
D'accord.
Je prendrais Kennedy parce que je pense que son neveu aujourd'hui aux États-Unis n'est certainement pas là pour rien. Et je pense qu'avec ce que Kennedy avait dénoncé avant de mourir, assassiné, je pense que c'était parce qu'il savait ce qui allait se passer les décennies suivantes, en fait.
Mmh. Donc, les mises en garde.
Ouais. C'était des mises en garde. Donc, je pense que c'était certainement, sans s'en rendre compte, une des personnes les plus importantes sur ce qu'il avait peut-être à dire, d'être vigilant, ouais.
Ça mériterait de faire une émission sur Kennedy, surtout qu'il y a eu ces révélations dernièrement, si Jean-Dominique Michel en a parlé, par rapport aux documents déclassifiés. Ouais, ouais. Effectivement, j'imaginais pas que tu allais me dire Ramsès II, parce que personne sait ce qu'il a fait pour l'humanité. Mais... Ok, très bien, merci beaucoup. Ouais. Est-ce que Pascal, toi, tu voulais poser une question à Mirko?
Non, pas directement, non, mais j'ai été captivé et j'ai écouté avec grande attention. Il y a des passages qui m'ont fortement plu, notamment faire appel à son intuition, qui est une chose très, très importante et qui a été une chose très importante. Je pense aussi que là, tous les gens se sont retrouvés un petit peu en se connectant à eux-mêmes et en se disant, il y a quelque chose qui sonne faux. Voilà, ce passage-là m'a beaucoup plu.
Mm-hmm. Tu sais, il y a une phrase auquel j'ai pensé ces derniers mois, que je trouvais qu'on nous dit beaucoup et que je trouve terriblement fausse, c'est la fameuse phrase « La curiosité est un vilain défaut ». Pourquoi la curiosité est un vilain défaut? Pourquoi on n'a pas créé la phrase « La curiosité est nécessaire » ou « La curiosité est un joli… »
C'est le plus beau des défauts.
Le plus beau des défauts, voilà. Cette phrase donne déjà l'impression qu'on explique qu'à l'humanité qu'il ne faut pas… Faut pas être curieux.
C'est vrai, faut pas chercher.
Et moi, je dirais vraiment, s'il fallait un peu presque finir cette émission, là, c'est soyez curieux, en fait. Vraiment, allez même sur les sujets qui vous paraissent les plus improbables. Parce que comme ça, si demain, il y a quelque chose qui se produit de vrai, vous pourrez vous dire, ah, ben, je me suis intéressé à ça. Et... Potentiellement, ça s'est produit.
Magnifique. Amaël ?
Pour moi, on a fait le tour. Je suis super ravie de t'avoir entendu. Ça fait super plaisir. Ouais. Et merci pour tout ce que tu amènes, qu'on a.
Oui, merci à vous, merci à toi. Mais avec Amaël, on s'écrit des fois par message, mais on a toujours quelques phrases écrites sur un clavier. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de parler. Puis comme elle est partie au bout du monde, moi, je voulais qu'elle vienne me voir en spectacle.
Tellement.
On est un peu coincé par la distance, mais...
Ça viendra.
Voilà, ça viendra, exactement.
Il y aura peut-être une représentation spéciale au Paraguay bientôt.
Ah oui, il y a pas mal de francophones vers la capitale, ouais.
Oui, c'est vrai. Ouais. Même une école française là-bas. Très bien. Allez, gros bec, gros bisous. Merci à tous pour l'émission. Et puis, on se retrouve tout de suite avec les auditeurs qui le souhaitent. Et puis, sinon, la semaine prochaine, on a plusieurs invités très intéressants qui vont venir dans les prochains mercredis aussi. Voilà, un grand merci, Mirko.
Merci à vous.
Et tout bon pour
merci tout le monde.
Merci, salut. Bonne soirée. Ciao, ciao.